Après le déjeuner, on repartit. La marquise jet, toujours sur mes talons, ce qui m'ennuya au point que je priai son mari de s'occuper des deux petites Anglaises, lesquelles le reçurent comme un envoyé du ciel. Mais vois le caprice ou la méchanceté de la marquise. Elle ne me quitta pas pour cela d'une semelle, je devrais dire d'un fer de cheval. Nullement jalouse de ces deux petites filles, qui entraînaient son mari dans un nuage de cheveux blonds défrisés et de paroles sifflées comme des cris de mes anges, elle s'acharna à faire tout ce que je faisais d'imprudent et de dangereux pour me débarrasser d'elle. Elle passa au galop le long des précipices, elle descendit au grand trot des pentes rapides, elle sauta par-dessus des arbres morts, étendus en travers du sentier. Enfin, elle voulut et s'imagina partager avec moi les honneurs de l'intrépidité, le tout pour faire croire à son mari qu'elle est aussi brave que moi. Et cela en pâlissant de peur à chaque minute, en grinçant les dents et fermant les yeux à chaque nouvelle folie dont je lui donnais l'exemple. Moi qui m'amusais de l'aventure, je ne lui épargnais pas les émotions, et sans mon père qui vint me gronder sévèrement et me remettre au pas, le pauvre marquis serait certainement veuf à l'heure qu'il est. Nous étions arrivés à la Chartreuse, et la journée menaçait bien de se passer, sans que j'entendisse un mot sensé sortir des lèvres de mon futur fiancé, quand le hasard, qui est parfois un grand artisan dans la trame de nos destinées, amena un tête-à-tête entre Malcolm et moi. Je dis un tête-à-tête, bien que nous fussions trois. Mais ce tiers, appartenant à une classe que j'ose dire étrangère au règne dont je fais partie, je ne le compte que comme comparse dans une scène de théâtre. En somme, ce comparse était singulier, et je ne sais pourquoi, je ne te le décrirai pas. Un autre te ferait la peinture des rochers, des herbes ou des nuages. Moi, je ne suis pas paysagiste. Je m'en tiens au genre. Figure-toi que presque tous les hommes étant entrés à la Chartreuse, d'où le beau sexe paraît exclu sérieusement, il ne resta avec les femmes que ceux qui connaissaient déjà l'intérieur du couvent et qui eurent la politesse de ne pas les laisser seuls. J'avais vu Malcolm se diriger dans un autre sens et sans faire semblant de m'en être aperçu, je pris de ce côté-là, pensant bien qu'il me verrait et ralentirait son escalade, car il gagnait avec une agilité superbe le somme d'un grand vilain rocher que les petites Anglaises, ses cousines, avaient déclaré « beautiful ». Elles sont romantiques. Mais le sentier de ce maudit rocher se trouvait si encaissé que Malcolm ne me vit pas du tout, et que quand j'arrivais en haut, je le trouvais assis côte à côte avec une espèce de colporteur, un homme de 30 ou 40 ans qui avait des bottes poudreuses par-dessus un pantalon râpé, une veste grise, un chapeau de paille en triste état, une chevelure inculte, une barbe de sauvage, pas de gants, et un gros bagage porté moitié sur son dos, moitié sur celui d'une vieille mule qui paissait sur un plateau à peu de distance de lui. En me voyant, Malcolm me fit un cri de surprise. Il rougit, pâlit, balbutia. Enfin, il fit tout ce que doit faire un amoureux, bien pénétré de son personnage. De mon côté, je fis une petite exclamation de surprise, je m'efforçai de rougir, mais je crois que ce fut peine perdue, et je m'assis naturellement là où je me trouvais, car j'étais fort essoufflée. Il eut alors le courage de se rapprocher de moi et d'entamer la conversation, pendant que l'homme au grand paquet se couchait sans façon sur l'herbe, à 10 pas de nous, pour faire la sieste, après avoir serré la main de Malcolm, circonstance qui m'étonna beaucoup et qui m'étonne encore. Je lui ai demandé si ce personnage était un chef de brigand de sa connaissance, auquel cas je brûlais d'envie qu'il me le présentât. Non, répondit-il, ce n'est qu'un voyageur naturaliste. Quoi, m'écriai-je épouvanté, un savant? Non, non, reprit-il en souriant, un marchand de curiosité. Dieu, que vous m'avez fait peur. Il paraît que vous ne plaisantiez pas ce matin, en disant que vous aviez en horreur les sciences dites naturelles. Toutes les sciences, c'est très sérieux. Pourtant, si vous n'avez pas envie de quelques belles échantillons de minéralogie, des pierres brutes? Non, c'est fort laid. Laissez dormir votre marchand de cailloux et racontez-moi une histoire que vous arrangerez comme vous voudrez, pourvu qu'elle soit divertissante, qui m'explique pourquoi vous avez donné une poignée de main à cet homme sans gants. Parce que je le connais de longue date. C'est un très honnête homme. Soit. Mais, mon Dieu, est-ce que vous seriez savant ? Ceci m'échappa malgré moi. C'était une bêtise de l'autre monde. Aussi Malcolm y répondit-il par une bêtise encore plus voyante. « Si je l'étais, du moment que cela vous déplaît. » Si bien que, dès les premiers mots d'une conversation que je m'étais promis d'engager si adroitement, je lui avais dit tout ce que j'étais censé ne pas savoir, et je m'étais fait dire tout ce qu'il s'était promis de ne pas me faire entendre. Après ces deux répliques, remarquablement stupides, provocation d'une part, déclaration de l'autre, je me demandais si ce que j'avais de mieux à faire n'était pas de me sauver. Mais je vis qu'heureusement, Malcolm n'avait nulle conscience de ce qui venait de lui échapper, et je pris résolument le parti de ne l'avoir pas entendu. Je me mis à babiller avec aisance sur toutes sortes de sujets plus ou moins saugrenus, afin de faire causer le timide et prudent Malcolm. La présence de cet homme qui dormait à 10 pas de nous me semblait très comique. C'était comme un chaperon improvisé par la Providence pour assurer la convenance de mon premier tête-à-tête avec celui que je n'épouserai peut-être pas et que je n'ai pas refusé d'épouser, circonstance qui place le beau Malcolm plus près de mon cœur et de ma main que je n'ai encore permis à aucun autre de se glisser. Pourtant, ce témoin de l'entrevue n'était là que pour la montre, car il ne daigna pas seulement s'apercevoir de ma présence. Il ronfla tout le temps. J'étais assez près de lui pour voir sa figure, qui me parut fort singulière, ni laide, ni belle, ni jeune, ni vieille, mais d'une distinction de type qui n'était pas assortie à son habillement, et comme cette poignée de main à lui, donnée par le noble Écossais, me trottait par la tête, il me vint à l'idée que c'était quelque montagnard de son clan, égaré comme nous, sous le ciel d'Italie. Tu me demanderas pourquoi j'ai fait tant attention à ce quidam, et pourquoi j'étais curieuse de ce qui le concerne. Je vais te le dire. J'ai une peur affreuse que Malcolm ne soit égalitaire, philosophe socialiste ou jacobin quelconque, et ma frayeur n'était pas dissipée à l'heure où je te parle, car le candide Malcolm a eu la finesse suffisante pour éluder toutes mes questions sur cet ami, ce camarade mystérieux, ce frère, franc-maçon peut-être. Il a toujours réussi à rompre les chiens, et moi je ne pouvais lui dire « Hélas, seriez-vous par hasard un homme avancé ?» C'était bien assez d'avoir été étourdi au point de lui demander s'il était savant. Une seconde question sur lui-même, une seconde réponse de sa part, comme la première, et nous n'avions plus qu'à aller demander la bénédiction de nos parents sous un arbre, en prenant le ciel et le petit abbé à témoin, ou déclarer tout projet rompu entre nous pour cause d'incompatibilité d'humeur. De tout ceci, il résulte que Malcolm m'a paru cachotier et plus fin qu'il n'en a l'air. D'un côté, j'en suis fort aise, je le craignais trop simple. De l'autre, nous verrons bien. Le reste de la journée s'est passé à revenir chez Lady Rosemonde, où une nombreuse société nous attendait pour dîner. J'ai d'abord été furieuse en voyant les femmes en grande toilette. Mon père n'était pas d'humeur à me laisser aller chez nous pour m'habiller. Il continue à être le meilleur des pères, mais à soupirer et à s'agiter quand je me fais attendre, de manière à ce que tout le monde s'en aperçoive bien. Heureusement, la délicieuse Lady Rosemonde avait tout prévu. J'ai trouvé dans la chambre qui m'était préparée ma soubrette italienne et une douzaine de mes cartons, où j'étais libre de choisir ma plus jolie robe pour la circonstance. J'étais donc très belle, tout en guipure et en ruban, de la tête aux pieds, avec 10 aunes de jus, et il n'y a rien qui repose comme cela. On a beaucoup mangé, beaucoup ri et beaucoup dansé. Papa s'est endormi dans un boudoir au son des violons, ce qui m'a permis de rester jusqu'à minuit. Voilà, ma chère, le récit d'une de mes journées. D'autres fois, nous allons briller en voiture aux Cassines, qui sont le bois de Boulogne de Florence, et où tout le monde va. De là, nous allons au spectacle, qui ne vaut rien, mais où l'on cause. Et puis des dîners, des soirées, des bals. Bref, je m'amuse beaucoup, et je médite sur le mariage entre deux mazurkas. Ton ami, Flavie de Kerr. Chapitre 2. Réponse de Robertine. Fragment. Paris, 10 avril 1850. Quant à l'histoire de ton mariage, ah, ma chère Fauvette, nous serons donc toujours folles. Espérons que le beau Malcolm mettra un peu d'amour dans ce cœur endormi et la délicieuse Lady Rosemonde un peu de plomb dans cette cervelle éventée. Je me flatte que ta prochaine réponse m'éclaircira le grand mystère de la poignée de main à l'homme sans gants. Et ceci est grave, si Malcolm allait être démocrate. Je voudrais bien qu'il le fût un peu et qu'il réussît à te le cacher jusqu'au jour où il aurait assez d'influence sur toi pour te faire comprendre que les idées excessives ne valent rien et que nous vivons dans un temps où un homme sans gants est pourtant un homme. Mais c'est trop tôt pour avancer devant toi une proposition si hasardée. Je me tais et j'attends la suite de ce roman. Tu as une manière de voir l'Italie qui me charme. Voilà un voyage qui m'instruit considérablement. Allons, il te profitera bien assez si tu nous ramènes de là un beau et bon mari. Je m'intéresse à ce Malcolm autant qu'on peut s'intéresser à un téméraire qui cherche l'absolu dans un tas de chiffons. Et sa mère est-elle assez folle aussi, celle-là, de croire qu'il suffit de ta fierté et de ta chasteté pour que son fils soit heureux avec toi? Ma chère, on te flatte bien assez. Je peux te dire tes vérités, puisqu'il est convenu, d'ailleurs, que tu m'aimes un peu plus que la première venue, à cause de ma franchise brutale. Ça te divertit et ça te change, comme disent les bonnes femmes. J'espère toujours que cela te changera, toi, réellement. Ou bien que tu poses un peu cette légèreté, et qu'au fond tu te soucies du bonheur et de la vérité, tout autant qu'une autre, plus peut-être. Qui sait ? Le ciel serait fort inconséquent s'il donnait à une créature tant de séductions irrésistibles et qu'il n'eût oublié que le cœur et la raison. Cela ne se peut pas, chère adorable fille. Tu es bonne, tu es juste et généreuse, n'est-ce pas? Oui, tu aimeras et tu mériteras l'amour que tu inspires le jour où tu le partageras. Je ne te dis rien de moi. C'est toujours la même chose. Un bon mari que j'adore, des enfants que j'idolâtre, etc., etc. Chapitre 3. Flavie à Robertine. 11 avril 1850. Ma chère, il se passe des choses plates dans mon tourbillon. D'abord, si j'épouse Malcolm, il n'y paraît guère, car il a disparu. Homme est disparu, au point que sa mère elle-même ignore où il est, bien qu'elle n'en convienne pas. Elle prétend qu'un proche parent à eux, étant de passage à Milan, a mandé Malcolm auprès de lui pour régler des affaires de la dernière importance. J'ai demandé si c'était un parent sérieux, un oncle à succession. On m'a dit oui, mais d'un air qui disait « peut-être ». Qu'importe. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au lieu de chercher à me plaire et à se faire connaître, Malcolm est allé à ses affaires ou à ses plaisirs. Vois comme j'ai bien fait de ne pas m'enthousiasmer trop vite. J'ai encore 3 ou 4 soupirants sous la main, et je te jure qu'ils se ressentent de la mauvaise opinion que Malcolm semble vouloir me donner, des facultés aimantes et des prétendues belles passions de son sexe. Je m'occupe et me distrais, en ce moment, à les faire enrager et à leur prouver, par d'invincibles arguments, mêlés de beaucoup de moqueries, que l'amour est une chimère. Je fais damner aussi la marquise G, bien que la conversation de son mari soit la chose du monde la plus insipide. Mais cette dame se permet de dire du mal de moi et de me faire passer pour une coquette. Cela et le mauvais goût de l'absence de Malcolm me donnent envie d'être méchante. Au milieu de tout cela, je commence à m'ennuyer un peu de Florence et à désirer de revoir la boue de Paris. Si mon père m'en croyait, nous n'attendrions pas du tout le retour de Malcolm, auquel, comme tu penses bien, mon petit cœur a donné un congé définitif. Mais mon père est plongé plus que jamais dans sa funeste passion pour les petits oiseaux. Se peut-il qu'un homme si bon, si sage et si bien élevé ait la manie des bêtes mortes? Oh, l'histoire naturelle, les collections, les noms grecs et latins, pour dire un canard ou une bécasse. J'espérais l'en avoir un peu dégoûté à Rome, un jour qu'il me faisait un sermon en 3 points sur mes caprices et mes légèretés. J'étais un peu piquée. Une vérité dure me vint sur les lèvres et partit plus vite que je ne voulais, à savoir qu'une fille qui n'a pas de mère et dont le père est absorbé les 2/3 de la journée par les volatiles empaillés peut bien être considérée comme orpheline et mériter quelque indulgence, étant forcée de se gouverner elle-même si elle ne se gouverne pas toujours bien. Là-dessus, mon pauvre papa devint sérieux, ne répondit pas, et malgré mon repentir et mes larmes, ferma son cabinet, cacha ses caisses et se fit mon écuyer et mon compagnon de plaisir avec une bonté adorable. Comme après tout, il paraissait se prêter sans regret à ce rôle, je m'applaudissais presque d'avoir été mauvaise. Vois comme le ciel est juste. Nous en étions plus heureux. Mais voilà que l'autre jour, j'ai senti dans la maison une vilaine petite odeur de pourriture musquée que je connais de reste. Et j'ai dit à Gaetana, « Mon père a ouvert ses grandes caisses. » « Oui, signora. Les oiseaux avaient besoin de prendre l'air. » Comme ça doit leur faire plaisir à ces vilains petits cadavres. Et depuis ce jour-là, mon père est soucieux, rêveur. Il y a de la mythe dans ses plumes, ses épidermes se durcissent, ses ailes sont attaquées, que sais-je. Il croit sentir dans son corps toutes les maladies dont ses momies sont atteintes. Il s'ennuie dans le monde, il s'endort au bal. À la promenade, il est agité comme un augure de tout ce qu'il voit voler. La nuit, au lieu de se reposer, il range, il époussette, il parfume, il secoue. Il est vrai qu'il ne me parle plus de mariage. C'est tout temps de gagner. Et je suis sûre qu'il s'obstine à croire que je me déciderai pour Malcolm. Et Dieu me pardonne ce soupçon, mais je crois à présent qu'il meurt d'envie de se débarrasser de moi, afin de n'être plus troublé dans ses voluptés ornithologiques.